RCFM spéciale élection.
Oh là là, je ne suis pas du tout politique, monsieur. Je m'excuse. Alors là, pas du tout.
Moi, je vote pas. Je m'en fous des élections.
Après, le reste, c'est la politique, je n'y connais rien.
Au contraire, je suis très intéressé par les élections parce qu'elles conditionnent toute notre vie dans les villages, surtout dans les villages.
Et nous avons les mêmes emmerdements à la campagne.
Parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous et on peut avoir une action beaucoup plus efficace.
À l'occasion de la campagne électorale, retrouvez vos candidats dans les émissions de CFM.
Donc pour le deuxième tour de l'élection cantonale, j'accueille cette fois en débat, un débat qui durera une demi-heure, ça fera 5 minutes de plus chacun que pour l'entretien solitaire de 10 minutes. J'accueille en débat les deux subsistants du deuxième tour, ils auraient pu après tout être 3, mais enfin ils ne sont que 2 à Villefranche-Jouërec, sur le canton de Villefranche-Jouërec, Serge Roch et Éric Cantournet. Je rappelle rapidement que Serge Roch a obtenu 42% et M. Cantournet 25%, le Parti Socialiste obtenant 24% et on va dire la gauche 9%. Donc on en est là et il y a eu 50% d'abstention. C'est quand même un élément également très important à rappeler. Et donc, vous avez choisi l'un et l'autre. On va en tirer au sort. Et c'est M. Roch qui doit commencer. Et donc, ce sera M. Cantournet qui conclura. Et notre premier sujet que je vous donne en pâture à l'un et à l'autre. Et donc, M. Roch commence. C'est à propos de la Rocade Sud.
Oui, merci. Effectivement, c'est le dossier majeur. Et c'est sans doute ce qui va occuper le prochain conseiller général, et c'est là qu'il sera un peu jugé quant à son efficacité, parce que Villefranche a besoin, Villefranche et son canton a besoin absolument de cette rocade sud, qui est en fait une voie de contournement sud de l'agglomération, et sous peine de voir la sécurité de milieux de nos concitoyens à Villefranche et hors Villefranche, sur les communes rurales et en particulier à La Roquette, mise gravement en danger. On a un flot de camions qui arrivent dans la zone des Gravasses et qui ont du mal à en sortir et qui passent sur des voies qui ne sont pas faites pour les camions. D'où des pollutions, d'où un risque grave de sécurité, d'où également des difficultés pour les entreprises en matière de développement économique. Et cette situation actuelle qui est déjà très difficile, il ne faut pas être prophète pour savoir qu'elle va encore s'aggraver dans les années à venir, parce qu'on aura de plus en plus de camions d'une part, et parce que la communauté européenne vient d'autoriser la circulation sur les routes françaises de camions encore plus gros, encore plus importants. Donc la situation deviendra, si on ne fait rien, inextricable dans quelques années. Parce que déjà, et on va en parler, c'est difficile de trouver une voie, un passage. Et si on ne fait rien dans les années à venir, eh bien moi je prétends que dans 10 ans, ce sera impossible de faire cette voie et que la ville sera asphyxiée par ces camions. C'est donc une nécessité absolue et je crois que tout le monde le reconnaît. Et chaque fois que je parle de ce sujet, c'est par là que je commence. Parce qu'effectivement, ensuite, quand on rentre dans l'application, tout de suite viennent les difficultés. Parce que tout le monde la veut, mais un peu loin de son jardin. Ce qui est bien légitime et bien entendu. Et il faut quand même arriver à trouver ce passage. Or, c'est très difficile parce qu'on est là. Il y a une partie qui est inondable, il y a la voie de chemin de fer à franchir, il y a une zone qui est très urbanisée, il y a un environnement très riche, et on l'a vu, puisque un des passages par le Malpass a été retoqué, et de façon irréversible, parce qu'on a trouvé là des espèces d'intérêt communautaire, et à partir du moment où il y a des espèces d'intérêt communautaire, on ne peut plus mettre une voie. Vous savez que le département, qui est souvent critiqué, mais j'aimerais bien quand même qu'on regarde ce qu'il a fait dans ce dossier. Il en est au 10e essai. Il y a déjà 10 tracés qui ont été évoqués. Et 9 qui ont été refusés pour des raisons diverses, concernant la loi sur l'eau, concernant l'environnement, ou parce que les riverains n'en voulaient pas. Effectivement, un certain nombre de tracés qui passaient au Mas de Rivage, par exemple, ou à Trigodinas, ne pouvaient pas voir le jour. Et donc, là, Moi, j'ai demandé au conseiller général qu'il étudie un tracé qui passe entre les hameaux, qui évite au maximum les hameaux. Et c'est ce tracé qui, moi, me semble le plus apte à être retenu. Alors, bien sûr, la concertation, il faut la faire. On l'a déjà fait, puisque le tracé dont je parle, il est issu de la concertation. On est arrivé à ce tracé parce qu'il y a eu concertation, parce qu'un certain nombre d'élus, un certain nombre d'associations ont refusé les autres et qu'on a essayé de trouver un tracé donc moins contraignant pour tous les habitants de ce secteur. Donc, on a déjà fait la concertation, mais je sais qu'il faut la poursuivre. Le tracé retenu n'est pas définitif, il est amendable, il est améliorable, il faut essayer de le faire, mais il faut, dans ce dossier, avoir la volonté de le faire. Il ne suffit pas de dire il faut concerter un comité de suivi. Bon, on sait très bien peut-être, mais le comité de suivi, il faut d'abord que le tracé soit défini avant d'arriver au comité de suivi. Voilà.
Alors c'est une allusion directe à vos documents de campagne, M. Cantornet.
Absolument. Je crois que sur le constat, tout le monde est d'accord. Hein. Problème de sécurité, économie, désenclavement, qui est un enjeu majeur pour notre territoire et qui ne se limite pas à la Rocade Sud, qui d'ailleurs est une appellation qui est dans le langage courant, mais aujourd'hui le projet dont il est question, c'est en réalité la liaison Gravasse-RD 926, tout l'aspect Ségala, et qui est très important dans la perspective de la mise à deux fois de voie de la RN 88, ne figure pas dans le dossier actuel et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. Ce dossier, il n'est pas nouveau. On en parle depuis au moins une génération, de préférence avant les élections, et puis quand les élections sont passées, on en parle beaucoup moins. Moi, ce que j'ai essayé de faire sur ce dossier en tant qu'élu municipal, et M. Roch le sait parfaitement, c'est que ce dossier, on en parle aussi après les élections. Il y a eu l'attente de l'avis de la Direne qu'on a attendu, etc., tout en sachant qu'il serait certainement défavorable. Et ensuite, il a été évoqué ce projet de liaison Gravasse-Glèbe et puis maintenant RD 926. Moi, ce que je propose dans ce dossier, c'est quelque chose de simple et qui n'existe pas aujourd'hui, c'est une méthode. Une méthode avec la mise en place d'un comité de suivi qui associe les élus, les chambres consulaires et les différentes associations de riverains avec la volonté, et là je suis très clair là-dessus, avec la volonté de réaliser. Aujourd'hui, on voit bien que des tracés sont présentés. Alors, pendant un certain nombre d'années, il n'y a pas eu un tracé. Puis d'un seul coup, il y en a 7, 8, etc., qui sortent. Et je crois que c'est un des problèmes dans ce dossier, c'est qu'il manque de transparence et de concertation. Si on veut réellement avancer, s'en occuper sérieusement, ben je crois qu'il faut au lendemain de l'élection, parce que le dossier commencera à partir du 28 mars. Moi, je n'ai pas de tracé électoral à proposer, j'ai simplement une méthode, et cette méthode, aujourd'hui, elle n'y est pas dans ce dossier. Cette méthode, c'est pour qu'il y ait de la transparence, de la concertation, avec, je suis très clair là-dessus, la volonté de réaliser, et en n'oubliant pas la nécessité d'améliorer nos échanges avec le Ségala, sinon nous risquons de nous couper de ce territoire. Donc c'est aussi un outil de désenclavement, et le désenclavement c'est très important pour notre canton.
Alors je voudrais juste insister, parce que si je suis le docteur Roch, on est au 10e tracé, c'est pas le 9e, c'est le 10e. Moi, j'avais compris à l'entendre que c'était le tracé. Quand on sait ce qu'engendrent des tracés de ce type de voie, ça a dû coûter un certain nombre d'études qu'il a certainement fallu payer. Et si je vous entends, Monsieur Cantournet, ben pour l'instant, non, ça n'est pas le 10e tracé. Il y a un tracé à faire.
En tout cas, il n'y a aujourd'hui aucun tracé d'arrêté. Il y a d'ailleurs des études écologiques qui ont à nouveau été lancées, qui vont durer un an. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de tracé retenu pour cette liaison Gravasse-RD 926. Je pense que là-dessus, nous serons d'accord.
Mais, bien sûr, mais moi, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de vos affirmations. D'abord en disant, on en parle qu'au moment des élections. Franchement, c'était un dossier d'intérêt électoral, ce serait, je pense, que en parler moi en tous les cas pour ce qui me concerne, ça me prive de voix plutôt que ça m'en donne. Donc c'est pas un dossier qui est très électoraliste, parce que naturellement ça fait peur aux gens, les gens, et on voit bien que ça crée plus de troubles qu'autre chose. Et on n'en parle pas maintenant parce qu'il y a des élections, on en parle maintenant parce que le déroulé fait que le dossier arrive à ce moment-là. On a su, comme vous l'avez dit, en mai 2009, on a su officiellement qu'on ne pouvait pas passer par le Malpass. On ne pouvait rien faire tant qu'on n'avait pas cette réponse officielle. En sachant que ça aurait arrangé tout le monde de passer par le Malpass. C'était quand même plus facile, plus court, moins cher, et donc ça paraissait plus évident. Malheureusement, pour des questions d'environnement, on ne peut pas y arriver. Donc à partir du moment où on a su cela, j'ai pris l'initiative, et ça aurait pu être peut-être un autre que moi, puisqu'après tout, je n'étais pas conseiller général à l'époque, j'ai pris l'initiative voyant que rien ne bougeait, et quand le président du département m'a envoyé une lettre en disant « on ne peut plus passer dans le Malpass, que fait-on ?» Le département était un peu presque... je dirais désespéré là-dessus, parce qu'on était déjà là au 6e, au 7e tracé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de tracés ont été étudiés, ils sont retoqués les uns après les autres, et quand on connaît la topographie, encore une fois, il n'y a pas 100 endroits sur lesquels on puisse passer. C'est quand même très contraint comme territoire. Et c'est moi qui ai proposé au président du conseil général d'étudier la possibilité de la liaison entre les Gravasses et la Glèbe, sur le principe. Alors que ça arrive à la Glèbe ou que ça arrive un peu plus loin ou un peu plus sur la route de Montauban, c'était le principe de la liaison entre les deux zones économiques les plus importantes du canton. Et ce principe-là, en disant, en sachant, pour revenir à ce que vous avez dit sur le Ségala, que c'était qu'une première étape. On avait dit sur la lettre que j'ai fait co-signer et que les autres maires ont co-signé. Cette lettre est co-signée par le maire de La Roquette, par le président de la communauté de communes, M. Couronne, et par le maire de Savignac, et par moi-même. Donc quatre maires ont signé cette lettre. Elle est partie en juin 2009, donc un mois après qu'on a su que l'affaire ne pouvait pas se passer dans le Malpass. Cette lettre est partie au Conseil général, et quelques mois après, deux mois après, le président du Conseil général venait en petit quart avec les élus, on est allé voir où pouvait passer la route. Bon, c'est pas là qu'on a décidé, il y a eu des études qui ont duré encore un an. Je veux dire, on arrive maintenant au résultat des études. Il se trouve que la période électorale est là, mais c'est parce que on a eu, il y a deux ans, comment dirais-je, l'initiative de cette lettre qu'on arrive à cette période-là. Bon. Mais je m'en serais bien passé que ça corresponde à la période électorale.
Un dernier mot sur la rocade.
Oui, tout à fait. Je vais vous donner un exemple très, très concret pour illustrer l'absence de transparence et de concertation. Monsieur Roque est maire de Villefranche, je suis conseiller municipal d'opposition. À ce jour, il n'y a pas eu une seule réunion de travail organisée à destination de l'ensemble des élus municipaux. Peut-être que les élus de la majorité sont réunis et ils en ont parfaitement le droit, mais à ce jour, il n'y a pas eu une seule réunion destinée à l'ensemble des élus municipaux. Et je rappelle que lors de la présentation des tracés en juin 2010, je n'avais pas été invité à cette présentation, d'ailleurs je l'avais regretté dans la presse. Donc on voit bien quand même, et je pense que je ne suis pas le seul élu à le dire, peut-être que des élus d'autres communes, me semble-t-il, en tout cas à travers les réunions publiques que j'ai pu tenir, comme vous-même, monsieur Roque, dans ces communes, un certain nombre d'élus se plaignent de manque d'informations, de transparence. Et donc je crois qu'il est important d'avoir une méthode sur ce dossier. Moi, c'est ce que je propose. Donc j'ai à la fois la volonté de faire et la méthode. Et si je suis élu conseiller général, je m'impliquerai personnellement dans ce dossier.
Alors, je crois qu'on
Je voudrais simplement terminer concernant la concertation. Il y a eu quand même de nombreuses réunions. Il y a eu des publications dans la presse. Enfin, tout le monde était au courant. En sachant que c'est des dossiers difficiles, qu'au départ, le conseiller général, il présente ses études aux maires concernés qui, après, peuvent en faire état à leurs différents conseils. Et en sachant qu'on vient devant le conseil lorsque le dossier est abouti. Et comme vous avez dit, pour l'instant, il y a un tracé qui paraît préférentiel, c'est celui en tout cas qui gêne le moins, mais il n'est pas arrêté puisqu'il y a des études écologiques et qu'il faut donc aller au bout. Et deuxièmement, concernant le Ségala, bien sûr qu'il faut joindre le Ségala. Et cette affaire-là est prise en compte. Mais moi, je suis pragmatique. Et j'ai dit au Conseil général, commençons par faire le plus difficile. Et le plus difficile, c'est la jonction Pont de la Madeleine, route de Montauban. Une fois qu'on aura fait ça, Eh bien, ensuite, vous remontez par la côte de Saint-Vincent, vous vous trouvez sur le plateau, il faudra joindre sur le plateau de Morlihan, avec l'accord de la commune de Morlihan, à ce moment-là, bien entendu, la route de Rieupeyroux et la route de Ségala. Mais quand il n'y aura plus qu'à faire la jonction sur le plateau qui est tout plat et qui doit représenter 2 km, ça sera peu de choses à faire. La partie la plus difficile, c'est en bas. Et faisons ça, et lorsque cela sera fait, eh bien, il faudra effectivement joindre le Ségala, mais ça sera peu de choses par rapport à ce qu'on aura fait en bas.
Alors, le deuxième sujet, qui est également très utile et très important pour Villefranche-sur-Ouergue, eh bien, ce sont les abattoirs. Donc là, je vous laisse l'un et l'autre, Monsieur Cantournet.
Ben, vous l'avez dit, c'est un sujet extrêmement important pour tout notre territoire. Nous sommes dans une zone rurale avec une agriculture qui est fort heureusement vivante et qu'il faut essayer de conforter. Et l'abattoir est un outil de proximité irremplaçable. À l'heure où on parle de circuits courts, etc., je crois qu'on ne peut pas, absolument pas envisager de ne pas avoir d'abattoir sur notre territoire. Sinon, ça voudrait dire qu'il faudrait aller à Rodez ou à Montauban. Et que donc, il y a un enjeu majeur sur ce dossier pour l'ensemble de la filière viande. Et puis, il y a aussi des emplois directs, des emplois indirect. Donc tout ça est effectivement très important. C'est un dossier que je suis moi au niveau municipal, hein, puisque l'abattoir est municipal. J'ai une collègue qui siège au conseil d'administration de la régie des abattoirs, et ça c'est un choix que nous avons fait en début de mandat, de siéger à cette régie, parce que pour montrer l'importance qu'on attache à cet outil. Alors aujourd'hui, ça sera peut-être un peu l'objet de notre discussion, une solution semble se dessiner, et je m'en réjouis, mais on n'a pas encore bouclé totalement cette affaire qui a été lancée au niveau municipal via une délégation de services publics. Donc il y a à la fois l'aspect de mise aux normes, je dirais, du bâtiment, et puis il y a l'aspect économique, c'est-à-dire assurer la viabilité de cet outil avec des professionnels qui viennent abattre et assurer ainsi le tonnage et la pérennité de l'abattoir. Donc moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement on est, semble-t-il, sur la bonne voie. Il faut s'en réjouir. Alors, est-ce que il n'aurait pas été souhaitable d'essayer d'anticiper? Certainement, parce que c'est vrai qu'on est quand même sous la menace, hein, en tout cas s'il n'y a pas un projet très concret qui s'enclenche très rapidement. Madame la sous-préfète s'est investie dans ce dossier, c'est important aussi, il faut le signaler. Et je crois que le département, le conseil général, doit effectivement s'impliquer, mais il y a un accord de principe, hein, je pense, de l'ensemble des collectivités, d'un certain nombre de groupements de communes. Bon, à ce jour, les collectivités n'ont pas forcément délibéré, c'est-à-dire pris une décision officielle, mais il y a, me semble-t-il, un certain nombre au moins de lettres d'intention qui font qu'on semble s'orienter vers une issue positive que, je pense, tout le monde souhaite. Là-dessus, il n'y aura pas forcément de désaccord, en tout cas sur le principe même d'assurer la pérennité de notre abattoir, qui a une spécificité, c'est qu'il est multi-espèce, et il faut le signaler. Donc voilà moi ce que je voulais dire dans un premier temps sur ce dossier.
Serge Roque.
Oui, l'abattoir, c'est effectivement un outil extrêmement important dans une zone d'élevage comme la nôtre. C'est le seul abattoir public. Seul abattoir public de tout l'Aveyron, il n'y en a pas d'autre. Et il existe encore à l'actuel grâce à la volonté farouche, je dirais, de la commune de le maintenir. Parce que si j'avais écouté un certain nombre de propositions, y compris venant d'élus de gauche, on me disait, mais non, ça, il faut le passer au privé. Vous embêtez pas de vous. Mais
merci.
Bon, mais d'un certain nombre qui voulaient pas qu'on le garde. En tous les cas, il y a eu une volonté extrêmement déterminée de la mairie pour le faire perdurer. Et actuellement, c'est la mairie qui porte ce dossier. et qui constitue le dossier de reprise et de modernisation. Et c'est vrai que c'est pas facile, ni sur le plan juridique, ni sur le plan financier, ni sur le plan fonctionnel, parce que pour faire reprendre un abattoir comme ça, encore faut-il avoir un utilisateur, on l'a trouvé, qui permette le tonnage suffisant, on y est, et puis ensuite, il y a les difficultés juridiques, c'est compliqué. Et c'est vrai que dans ce dossier-là, on a trouvé comme premier partenaire et partenaire solide le département. Le président actuel, Jean-Claude Luche, est fils d'agriculteur et frère d'agriculteur. Il est donc très sensible à tout ce qui tourne autour du monde rural. Il parle souvent de ruralité et c'est pas un hasard. Et donc, il m'a dit tout de suite, il faut absolument sauver cet abattoir qui était menacé de fermeture. Il aurait dû fermer le 31 décembre. On aurait dû ne plus avoir l'agrément le 31 décembre. On a obtenu de l'État une prolongation de l'agrément de quelques mois, mais il faut être capable de présenter un dossier viable. Et là, la commune de Villefranche, c'est bien évident qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'a pas les reins financièrement assez solides pour porter un projet de 3,8 millions d'euros. Donc, heureusement que le département est venu, nous a tout de suite dit qu'il était d'accord pour nous aider à subventionner cet abattoir. Après, à participer, si une SEM, on n'est pas encore là, mais si une SEM était créée, il participerait au capital, ce qui est important aussi. Et c'est fort de ce soutien-là qu'on a pu aller voir la région et que la région nous a donné également son accord de principe ainsi que la communauté de communes. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est que quand même, si le président n'était plus Jean-Claude Luche, il semble qu'on s'oriente pas dans cette situation, d'après les résultats du premier tour. Mais bon, en politique, rien n'est jamais fini tant que les élections ne sont pas passées. Si jamais c'était donc M. Durand, maire de Millau, président du Conseil général, il a dit publiquement, à la radio, on l'a entendu, on me l'a rapporté, qu'il s'agissait de promesses électorales de Jean-Claude Luche, que ça ne l'engageait pas. Que ça ne l'engageait pas. Donc, moi, je me fais du souci. Je me dis, si jamais la gauche prend la présidence du Conseil général, il va falloir ramer dur, parce qu'apparemment, le nouveau président serait moins favorable à l'abattoir que l'actuel. En tous les cas, c'est ce qui a été dit publiquement. Bon, alors...
Un mot là-dessus, peut-être ?
Oui.
Non, simplement, avec des si, on mettrait Paris et le canton de Villefranche en bouteille. Hein.
Non, mais là, ça a été dit publiquement. Le président
moi,
a dit,
je peux
ça ne m'engage pas.
Ce que je peux vous dire, c'est que si je suis élu conseiller général, ça sera une priorité. Moi, je suis très clair. Aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire réellement quelle sera la majorité demain au conseil général. Mais ce n'est pas que le projet d'un élu, c'est le projet d'un territoire. Et la force de ce projet, c'est que justement, il mobilise l'ensemble des partenaires, que soient des partenaires publics ou privés. Et je m'engage très clairement, parce que moi, je serai un élu libre à le défendre et à le porter au niveau du département, croyez-le bien.
Bien sûr, mais enfin, vous serez dans cette situation en position plus difficile. À partir du moment où l'exécutif départemental ne sera pas très convaincu, vous savez, il y a beaucoup de dossiers au niveau du département, et donc si le président n'est pas convaincu de la pertinence de ce dossier, et je pense qu'à partir du moment où le département ne suivra pas, d'autres collectivités ne suivront pas aussi. En tout cas, moi, à mon avis, il y a un risque. Mais je veux dire que dans ce dossier, ce qui est important aussi, et je profite de ce micro pour le dire, c'est la mobilisation du monde agricole. Les agriculteurs sont extrêmement regroupés sur ce dossier, agriculteurs et bouchers et professionnels que j'ai reçus, et qui tous sont très mobilisés sur ce dossier, sont prêts à rentrer dans le capital, sont en train de faire une société, ils sont plus de ça, et moi je leur dis qu'il faut qu'ils continuent comme ça, qu'ils se mobilisent encore, que c'est un facteur déterminant, parce que moi je sais que ça m'a aidé pour convaincre les autres collectivités en disant, vous voyez, c'est pas un dossier qui concerne uniquement les élus, mais c'est un dossier qui concerne tout un territoire, toute une profession qui est très mobilisée. Ce serait dramatique de perdre l'abattoir à Villefranche, et donc je conseille aux agriculteurs de continuer leur mobilisation et leur pression sur le monde des élus, car leur participation est très importante.
Alors, il nous reste 7 minutes. Vous avez un peu d'avance, M. Roch. Donc, je vais vous laisser la parole, puisque c'est M. Cantournet qui doit conclure. Il me paraît souhaitable de passer au troisième sujet, qui était...
Un mot simplement sur l'abattoir. Je crois qu'il ne faut pas faire, peur aux habitants du canton, aux agriculteurs, etc. Dire que si la gauche devenait majoritaire, l'abattoir n'existerait plus, moi je crois qu'on ne peut pas affirmer ça de cette manière. Alors que ce soit un argument électoral, pourquoi pas? Moi en tout cas, je pense pas.
J'ai dit simplement qu'il y avait un doute. Voilà. Oui, il y a un doute. Et dans ces cas-là, mais les doutes, il ne faut pas avoir de doute. Non, mais... Parce que vous savez, l'abattoir, il faudra
que... Il n'y a pas de doute à avoir. Parce que l'abattoir sera défendu, ne vous inquiétez pas.
L'État, je veux dire, l'agrément, on le conservera que s'il y a une volonté forte
sur l'enseignement. Sur l'enseignement, l'un et l'autre, vous avez indiqué que vous souhaitiez voir s'installer de l'enseignement supérieur en Aveyron. J'observe que ça ne relève pas de la compétence du Conseil général. Alors, M. Roch a ajouté, lui, qu'il souhaitait voir s'installer de l'apprentissage, et M. Cantournet, lui, que l'entretien des collèges. Il fallait être vigilant là-dessus. Bon, Serge Roch, sur l'enseignement au niveau du département et pour le conseiller général.
Oui, alors d'abord, nous avons à Villefranche un très beau collège, un des plus beaux collèges du département, et je m'en réjouis beaucoup. Et le maire que j'étais à l'époque y est pour quelque chose, puisque c'est moi qui ai demandé au président Puech à l'époque de regrouper les collèges. On avait un collège à la Douve, un collège au Tricot, et... À Rodez, on me disait, c'était au Villefranchois, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez garder deux collèges ou est-ce que vous voulez en faire un seul? Donc, la municipalité a demandé que les deux collèges soient regroupés au Tricot. Résultat, on a un très beau collège, très bien informatisé. Quand le recteur est venu, il a dit que c'était un des plus beaux collèges de Midi-Pyrénées. Et donc, c'est un plus considérable pour le canton de Villefranche-de-Rouergue. Et il y a un projet de création d'un internat d'excellence au niveau de ce collège qui va encore apporter un plus. Alors, en matière d'enseignement supérieur, bon, il y a longtemps que je dis que Villefranche souffre d'une inégalité, d'une injustice à ce point de vue-là. On a beaucoup moins d'enseignement supérieur que d'autres territoires comparables, d'autres villes comparables. Et chaque fois que je plaide ce dossier, je dis qu'il y a une justice à réparer et qu'il serait bon que s'il y a des créations de filières supplémentaires, elles le soient à Villefranche parce qu'on a un véritable retard et on a été moins bien traité que d'autres, beaucoup moins bien traité que d'autres. Alors, vous avez dit, le département n'a pas la compétence, c'est vrai, mais il travaille actuellement à un schéma départemental de l'enseignement supérieur, et ce schéma sera proposé à la région, puisque c'est la région qui, en réalité, décide in fine. Mais si le département fait des propositions à la région, on peut penser qu'un certain nombre seront retenus. Et donc, moi, je plaide pour que dans ce schéma départemental, Villefranche de Rouergue occupe une bonne place, en sachant que, justement, la Douve qui a été libérée peut très bien convenir pour abriter de l'enseignement supérieur.
Est-ce que vous avez une idée des filières?
Mais écoutez, on travaille sur des filières culturelles. Millau a réussi à avoir le tourisme industriel. Nous, on pourrait avoir le tourisme culturel, patrimonial. Par exemple, il y a aussi des filières tournant autour de l'écologie, des nouveaux bâtiments de construction. Et puis quelque chose qui n'est pas de l'enseignement supérieur, mais qui est de l'enseignement spécialisé et qui ferait du bien à notre ville, sur lequel on travaille depuis un bon moment aussi, c'est ce qui concerne une école d'aide-soignante, puisque vous savez qu'on a un centre hospitalier qui fonctionne très bien, qui offre donc des terrains de stage tout à fait appropriés à ce type d'études, que ce soit infirmière d'ailleurs ou aide-soignante. Et donc, on travaille pour avoir une école d'aide-soignante. Et actuellement, la décision est entre les mains de la région.
Mais Monsieur Cantournet, vous avez un long temps pour conclure, compte tenu de l'avance qu'a maintenant pris Serge Roch.
Ben écoutez, moi, sur l'enseignement supérieur, c'est effectivement un enjeu très important pour notre territoire. C'est aussi une des conditions du développement économique. il faut aussi l'indiquer. Le collège, effectivement, a été regroupé sur le site du Tricot, ce qui d'ailleurs a impacté la Bastide, hein, puisqu'aujourd'hui, le site n'est pas occupé. Et sur la Bastide, j'en profite pour dire un mot, hein, à savoir que les arbitrages vont très souvent dans le sens de la périphérie, et que le Conseil Général, qui devait réaliser une maison des services et également pour l'Institut Occitan, ben finalement a abandonné le projet. Aujourd'hui, on est sur un autre projet privé, mais c'était une petite parenthèse. Simplement, l'enseignement supérieur, bien sûr qu'il faut s'inscrire dans le schéma régional pour essayer d'obtenir des formations, ce qui nous permettrait aussi d'essayer de fixer sur place des jeunes. Et ça, c'est un enjeu important pour tous les territoires. L'objectif étant d'avoir, je dirais, une démographie équilibrée, ce qui traduirait certainement une meilleure santé de notre territoire, hein, dans un contexte général d'augmentation de la population. Et nous avons tendance quand même un petit peu à stagner. Donc ça serait aussi un moyen de dynamiser notre territoire géographique, qui en a quand même bien besoin. Et je faisais le lien, je le redis, avec le développement économique. C'est vrai qu'il faut être en phase avec les besoins du territoire et avoir une complémentarité formation-emploi. Ça, c'est naturellement indispensable. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais, si je dois m'approcher de la conclusion,
vous approchez.
Je voudrais simplement dire que, bon, d'abord remercier les électrices et les électeurs qui ont voté pour moi et pour ma suppléante, et puis dire qu'il y a un enjeu très important le 27 mars, c'est l'enjeu du second tour. Il n'y a plus que deux candidats en présence, Monsieur Roch et moi-même, et que le 27 mars, il faudra faire un choix. Le choix, il est clair. Il y a effectivement Monsieur Roch est candidat au titre de l'UMP, moi-même qui suis radical de gauche, n'ayons pas peur de nos étiquettes. Et puis il y a également un choix, je dirais, en termes de nouvelle génération politique. Monsieur Roch était peut-être dans ma situation en 92, aujourd'hui c'est mon tour, et dans un certain nombre d'années, ça sera le tour de quelqu'un d'autre. Donc il y a sur ce vote également l'occasion d'opérer un choix en termes de renouveau du personnel politique local. Monsieur Roch s'était engagé à siéger à la région pendant 4 ans. S'il est élu, il ne le fera pas. Et là, il y a quand même...
Je souhaiterais qu'il n'ait pas...
Il y a quand même...
Il a donné une réponse.
Il donnera une réponse.
Bon, rapidement.
Mais il y a quand même...
Et on finit la conclusion, Monsieur Cantonnet.
C'est quand même Cantonnet. Quelque chose qui me semble tout à fait important. Le lien de confiance... le contrat de confiance entre les électeurs et celui qui est élu. Et de ce point de vue-là, vous ne pourrez pas tenir votre engagement si vous êtes élu, et donc vous ne pourrez pas défendre pendant la durée du mandat jusqu'en 2014 les dossiers au niveau de la région. Et donc, ça me paraît quand même être un élément important dans cette élection. Voilà ce que je voulais dire.
Pour, en appelant... pour vous relaisser une conclusion, je suis obligé de demander...
Alors, je cède la parole à Monsieur Roch.
Mais voilà. En 30 secondes.
Oui, mais
sur les 4 ans.
Très rapidement, sur les 4 ans. Je voulais simplement dire, quand même, on n'a pas parlé d'un projet qui me tient à cœur, j'en profite. Le centre des handicapés, il y a 10 ans que je travaille à ça.
Moi aussi.
Alors, donc.
Je vous demande d'être honnête, s'il vous plaît.
Mais pour répondre à la question de M. Cantourné, effectivement, si je suis élu, je ne siégerai pas à la région, mais je ne serai pas le seul à être dans ce cas, à avoir des. Il y a d'autres élus qui ont ce type de situation à régler. En sachant qu'à la région, on est élu sur un scrutin de liste, que j'ai déjà siégé depuis un an à la région, que donc, comment dirais-je, j'ai mes entrées à la région, et que si quelqu'un d'autre prend ma place, je lui transmettrai les dossiers Villefranchois et du canton, et je saurai qu'ils pourront être défendus puisqu'on siégera sur la même liste. La région ne sera pas pour moi une entité inconnue, et je pourrai mieux, de toute façon, défendre les dossiers Villefranchois que si je n'avais jamais siégé à la région.
Une conclusion qui est une conclusion.
Alors, une conclusion, moi j'appelle à la mobilisation pour le second tour. Hein. On a parlé d'une abstention importante. J'appelle à une mobilisation de toutes les générations pour participer à ce second tour. J'ai dit qu'il y avait un enjeu extrêmement important. Moi, je suis sur ce deuxième tour le candidat de rassemblement de toutes les femmes et de tous les hommes de progrès sur ce canton. Et je crois que il faut, en tout cas nous, avec ma suppléante Odette Taïoki, on va faire campagne jusqu'au bout. Et,
nous aussi, pas de problème.
Et donc dimanche soir, résultat.
Voilà, dimanche soir, résultat. Et donc vous concluez avec beaucoup de retard, mais enfin bon, on a une antenne qui est disponible pour ça. Donc Serge Roch et Éric Cantournet, Serge Roch pour l'UMP, Éric Cantournet pour le Parti Radical de Gauche. Et vous êtes candidat au deuxième tour à l'élection cantonale sur le canton de Villefranche-d'Ouergue. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Merci.
La vie des pays au son de la pop et du rock en Aveyron. La vie des pays. CFM.